Europe 1.
Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'était il y a un mois le début des fameuses opérations Placenet XXL contre le trafic de drogue. Bilan provisoire, près de 4000 interpellations, dont 600 trafiquants déférés, plus de 55 000 policiers et gendarmes mobilisés. On va rendre la vie des dealers impossible. Voilà ce que déclarait le chef de l'État lors du lancement de l'opération. Une annonce qui semble faire pchit. Leurs activités ont déjà repris dans le très sensible quartier d'Aiglongue à Montpellier. Reportage du correspondant d'Europe 1, Charles L'Huillier.
L'opération Placenet, on s'en bat les couilles.
Ici, la dizaine de très jeunes guetteurs a repris place en bas des immeubles et c'est l'un des grands du quartier qui encadre.
Moi, alors ici, mon rôle, c'est de commander les guetteurs. J'ai juste à poster les guetteurs le matin et le soir, les payer. Et ils touchent 130 euros par jour.
Sa juteuse activité ne s'est d'ailleurs jamais vraiment arrêtée, car ici, c'est du deal 2.0. Après avoir exposé sa marchandise sur les réseaux sociaux, il dispatche ses livreurs un peu comme un Uber Eats de la drogue.
Placenet, ça sert à rien, franchement, parce qu'en fait, eux, ils viennent. Mais en fait, nous derrière, on a des livraisons, on a des envois par colis. Il n'y a pas que du surplace, quoi.
Et pour le surplace, justement, les transactions s'effectuent devant une école maternelle située derrière la cité, aux grandes dames de cette institutrice, pourtant pleine d'espoir avant Placenet.
Ils sont entre le foyer de l'enfance et l'école maternelle. Les enfants voient ça et se questionnent. Ça montre le mauvais exemple. C'est dérangeant, c'est insécurisant.
Un business très loin d'être éteint, surtout que le chiffre d'affaires généré par la drogue ici atteint les 200 000 euros par mois. À Montpellier, Charles L'Huillier, Europe.
Montpellier, où la jeune Samara rouait de coups devant son collège avant les vacances scolaires, va reprendre la classe aujourd'hui, mais à distance.
Oui, elle n'est pas encore en capacité de retourner en cours, selon le rectorat qui a pris des mesures conservatoires et disciplinaires contre les collégiens mis en cause dans cette affaire.
Oui, des jeunes de plus en plus violents, d'autres qui baignent dans le trafic de drogue. Comment empêcher les mineurs de basculer? Question que tente de résoudre Gabriel Attal.
La semaine dernière, à Viry-Châtillon, le Premier ministre a suggéré d'envoyer les jeunes les plus à risque dans des internats éducatifs pendant les vacances scolaires, sur la base du volontariat. Objectif, extraire les mineurs en difficulté de leur quartier avant qu'ils ne décrochent. Ce matin, Gabriel Attal va inaugurer l'une de ces structures à Nice. Alexandre Chauveau, le Premier ministre, veut montrer qu'il est dans l'action.
Passer des paroles aux actes, voilà l'objectif de Gabriel Attal, 4 jours après son discours à Viry-Châtillon sur la délinquance des mineurs. À la demande du Premier ministre, des élèves décrocheurs vont être encadrés pendant 15 jours par des éducateurs spécialisés. Au programme, une immersion totale et un encadrement strict avec des cours de rattrapage et la pratique de certaines activités pour tenter de ramener ces jeunes dans le droit chemin. L'initiative, coordonnée avec le ministère de la Justice, se veut une illustration du choc d'autorité souhaité par Gabriel Attal. Des dizaines de milliers de places d'internat sont désespérément vides, déplorait-il jeudi dernier. En quête de résultats concrets après 100 jours passés à Matignon, le Premier ministre dit vouloir responsabiliser les parents défaillants et aider ceux qui peuvent être dépassés. C'est tout l'objectif de cette expérimentation qui, en cas de réussite, pourrait être généralisée à l'ensemble du pays.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 notait que c'est aujourd'hui que débute le couvre-feu pour les mineurs en Guadeloupe. Interdiction pour eux de traîner dehors après 20 heures et ce pendant 2 mois.
8h05 sur Europe 1. Que se passe-t-il dans le nord de la France? 10 associations britanniques d'aide aux migrants sont dans le viseur des autorités françaises.
Oui, après le Brexit, elles ne touchent plus les aides européennes. Ces organisations ont donc mis en place un petit tour de passe-passe, changer leur nationalité juridique afin de toucher les subventions de l'État français qui sont bien plus importantes. Jean-Baptiste Marty.
Tout commence fin 2021. Choose Love, plus gros donateur britannique pour ses associations, 700 000 euros par an, coupe les subventions et se tourne vers l'écologie. Pas le choix, il faut réduire les distributions ou encore l'assistance juridique aux migrants. Jusqu'à cette solution, solliciter l'État français en changeant de nationalité juridique, un jeu d'enfant selon l'avocat Philippe Fontana.
Il est facile pour des associations étrangères de venir s'installer en France dans une totale liberté, d'éventuellement de recevoir des subventions de l'État.
Car chaque année, l'État français verse au total 1 milliard d'euros aux associations. Une aide financière toute trouvée pour ces entités britanniques dont l'action interroge.
Que viennent faire des associations britanniques en France alors même que le rôle d'une association c'est d'accueillir la demande d'asile pour in fine que la personne revienne dans son pays quand la situation se sera stabilisée. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une présomption d'aide à la migration illégale et en tout cas la philosophie de l'association peut poser question.
L'année dernière, environ 30 000 migrants ont rejoint illégalement également l'Angleterre.
Jean-Baptiste Marty.
Le procès en appel de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Le procès en appel s'ouvre aujourd'hui.
Près de 500 jours après le verdict, 2 des 8 accusés vont être rejugés. Il s'agit de 2 proches de l'assaillant condamnés à 18 ans de réclusion en première instance. Procès qui promet d'être douloureux pour les familles des 86 victimes de cet attentat sur la promenade des Anglais.
Et puis c'est le début aujourd'hui de la Pâque juive, presque 200 jours après les massacres du 7 octobre.
Dans les prochains jours, nous augmenterons la pression politique et militaire sur le Hamas. C'est le seul moyen de libérer nos otages et de remporter notre victoire. Déclaration hier du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Israël qui garde un œil attentif sur l'Iran. Tension toujours vive entre Téhéran et Tel Aviv. Menace permanente, angoisse quotidienne pour les Israéliens et une douleur particulière pour les quelques 20 000 juifs iraniens installés en Israël. Ram Amrani en fait partie. Chaque jour, il suit et commente la situation au micro de sa web radio avec l'ambition de déjouer la propagande du régime iranien. L'envoyé spécial d'Europe 1, Wilfried de Villers, l'a rencontré.
Dans son petit studio sur les hauteurs de Jérusalem, Rani prend tous les jours l'antenne. Il parle en persan, sa langue natale, depuis Israël, son pays d'accueil.
L'Iran, c'est comme ma mère et Israël comme mon père. Et en ce moment, je me sens tel un enfant dont les parents se disputent.
À l'antenne, le ton est ciselé, les sujets brûlants.
On parle beaucoup d'actualité israélienne et européenne et on la décrypte en persan pour que les Iraniens comprennent ce qu'il se passe vraiment en dehors de l'Iran. Et pas ce qu'essaie de leur faire croire le régime des Mollahs, qui ment tous les jours au peuple.
L'animateur et ses collègues touchent près de 9 millions de personnes sur leurs différentes plateformes. Ils décryptent évidemment les récentes tensions avec leur perspective de juifs iraniens. Rani Amrani est même régulièrement invité sur les plateaux télé israéliens.
Ça aussi, c'est important. Essayer d'expliquer aux Israéliens ce que pensent les Iraniens, de leur dire que nous ne sommes pas tous leurs ennemis, mais que c'est le régime leur véritable ennemi.
Rani multiplie aussi les appels à la paix, lui qui rêve de revoir un jour l'Iran. Un rêve qui ne pourra se réaliser qu'une fois que les Mollahs auront quitté le pouvoir. Jérusalem, Wilfried de Villers, Europe 1.
Et puis il fait très froid en ce moment, on a même des gelées en cours ce matin dans plusieurs endroits du pays.
Oui, le gel qui menace les récoltes de l'année. Toute la nuit, Romain Poulet du domaine des Chaumes, appellation Chablis, a veillé sur ses vignes, écoutez.
Ah, les températures ont chuté très très vite en début de nuit, on a dû intervenir très tôt, avant minuit d'ailleurs. On utilise 400 bougies à l'hectare et on a protégé 1,5 hectare, donc on a à peu près 600 bougies. C'est efficace. Après, on a 10 euros à la bougie, donc ça va assez vite. La nuit prochaine, on va être sensiblement sur la même chose. Ça commence à tirer un petit peu, mais bon, c'est le métier.
Romain Poulet, joint ce matin par Christophe Bordet. L'hiver au printemps, cauchemar des agriculteurs, ça va durer, Anissa Haddadi ?
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une masse d'air polaire qui vient de Scandinavie, qui fait chuter le thermomètre. Alors, pour la semaine à venir, aujourd'hui et demain seront les journées les plus froides de la semaine. Et c'est la nuit à venir qui sera la plus froide. Il va falloir s'attendre à des gelées en région parisienne, dans le Nord, le Grand Est, dans les Alpes et en Auvergne. Ce sont les régions les plus touchées par ces fortes gelées de demain matin. On est 4 à 8 degrés en dessous des moyennes de saison, mais un léger redoux est prévu à partir de vendredi. Mais qui dit redoux dit aussi retour de la pluie pour le week-end à venir.
On ne peut pas tout avoir. Merci beaucoup Anissa Haddadi. On reste bien à l'écoute de votre météo toutes les demi-heures.